La question de la liste du patrimoine mondial, c'est probablement la partie la plus visible de la convention, je dirais. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 878 sites qui
Oui.
se trouvent sur la liste. Et j'aimerais avoir vos idées sur plusieurs aspects. Le premier, c'est est-ce que vous avez une intuition ou de l'information sur le nombre de sites envisagés d'au départ par ceux qui ont créé la convention? Et est-ce que vous pensez qu'il y a trop de sites, trop peu de sites? Et est-ce qu'à un moment donné, on devrait penser peut-être de limiter ou de faire un moratoire sur le nombre de sites sur la liste? Tout ça, c'est autour de la question de la
Oui.
liste.
Moi, je suis plus sensible à l'aspect qualité des sites qu'à l'aspect quantité. Peu m'importe le chiffre du moment que les sites qui sont inscrits ont une valeur universelle exceptionnelle au moment de leur reconnaissance et tout aussi important qu'ils la gardent après. Et qui ne perdent pas les qualités pour lesquelles ils ont été inscrits. Cela dit, je crois que ceux qui ont rédigé la Convention avaient une idée relativement restrictive du nombre de sites, je crois. C'était les chefs-d'œuvre de l'humanité, il y avait une approche, je crois que c'était beaucoup d'Européens et des Américains du Nord et des Canadiens. Ils avaient l'impression d'aller repérer les merveilles du monde. Nous étions d'ailleurs dans le courant des sauvetages de Abou Simbel et autres. C'est vraiment les chefs-d'œuvre majeurs de l'humanité. Alors je ne sais pas s'ils avaient une idée de chiffres, mais ils avaient en tout cas une idée de grande sélection. Nous sommes moins sélectifs pour le moment, et ça ne me fait pas tellement peur, moi. Du moment que la qualité y est. Si parce que combien de sites sont de valeur universelle exceptionnelle, on ne peut pas le dire à l'avance. Je ne pense pas qu'il y en a 10 000 dans le monde. Donc ça, ce sera sûrement une limite, mais nous sommes loin du compte. Je ne m'attache pas à un chiffre. Je trouve que c'est très important de s'assurer que pour la crédibilité des sites qui sont inscrits, qu'ils réunissent bien les conditions et qu'ils les conservent. Que ce soit progressif, parce que si on le fait trop vite, à un moment donné, on va être dépassé par les événements et pas capable de bien gérer. Ça, c'est un des problèmes que je vais évoquer. D'où maintenant, nous avons moins de 1 000 sites. J'ai un peu peur du rythme d'accroissement, mais je n'ai pas peur du chiffre de 1 000. Je crois qu'il y a encore des sites dans le monde qui ont une valeur universelle exceptionnelle. Et peut-être qu'il y a encore des sites que nous n'imaginons pas aujourd'hui pouvoir être inscrits et qu'ils le seront un jour. Je peux prendre un exemple. J'aide pour le moment des collègues français qui voulaient inscrire le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. C'est quelque chose qui n'était pas imaginable il y a 10 ans. Alors le premier pas a été, enfin je prends cet exemple-là parce qu'il est proche. On avait mis les châteaux de la Loire. Bon, c'est facile. Ça, c'est l'idée des pères fondateurs de la Convention. Quand on a mis la vallée de la Loire, c'est déjà un saut dans la conception du patrimoine. Mais ça reste la vallée de la Loire qui est un site exceptionnel dans lequel il y a les châteaux. Alors maintenant, il y a un projet qui va venir, je crois, dans 1, 2 ou 3 ans au patrimoine mondial, qui est un projet difficile, mais je trouve très intéressant. C'est un bassin minier. Le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, très étendu, comme le Val-de-Loire, qui n'a pas de château prestigieux, mais qui a un patrimoine très intéressant, très diversifié, autour des activités humaines qui se sont déroulées là pendant un siècle et demi. Ça mérite une reconnaissance. Et l'aspect que je trouve très constructif dans cette évolution, c'est que si nous tenions compte uniquement de la valeur esthétique ou patrimonial, on hésiterait, mais nous nous trouvons là devant une collectivité qui utilise ce patrimoine comme ressource pour bâtir leur avenir. Et voilà quelque chose aussi qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans et que je trouve très constructif. D'où, il y a 10 ans, on m'aurait dit le bassin minier, j'aurais dit écoutez, soyons sérieux. Maintenant, je trouve que c'est très intéressant. D'où, dans 10 ans, il y aura des idées que nous ne pouvons pas imaginer, nous. qui, si elles sont bien construites et bien conçues, viendront enrichir la réflexion de l'humanité sur les problèmes de son patrimoine et de ce qui doit être conservé pour la génération future, pas seulement pour garder la mémoire, mais aussi comme atout pour construire une vie nouvelle. Enfin, je reste un volontariste optimiste. Donc, revenant à la question, je n'ai pas tellement peur d'un nombre absolu, ce qui concerne la qualité et peut-être aussi le rythme. Quand on inscrit trop de sites en une fois, heureusement, je crois, pour le moment, on s'est calmé, mais il y a eu des années, il y a eu une année où j'étais très malheureux, quand, se réunissant en Italie, ça c'est le problème du comité, nous avons inscrit, je crois, plus que 10 sites italiens. C'était de la folie. Il ne faut plus jamais faire ça. Mais si on le fait de manière progressive, en maîtrisant le phénomène, il n'y a pas de panique. On peut avancer. Et je crois que c'est souhaitable parce que ça va faire progresser la réflexion et ça va donner une dimension plus sociale et collective à l'ensemble du patrimoine. Voilà un peu comment je vois les choses.
Okay. Est-ce que vous avez confiance à date, plus ou moins, que la qualité est maintenue?
J'ai peur. Non, ça, j'ai nettement peur.
C'est pour ça que je pose la question.
Absolument.
Parce que vous n'avez pas de sous-question.
Non, mais je peux faire la liste des problèmes. Hein. Je vous laisse un peu venir, mais j'ai peur que la qualité ne soit pas maintenue. D'abord, ça touche un peu à la manière dont fonctionne le comité. C'était déjà le cas antérieurement, je crois, mais c'est surtout, je crois, le cas maintenant. On inscrit parfois des sites dont on n'a pas la garantie que toutes les conditions sont remplies. Il aurait fallu d'abord vérifier que le plan de gestion était bien mis en œuvre, que la législation était adoptée, et puis seulement après l'inscrire. Donc je trouve déjà, au moment de l'inscription, c'est peut-être le moment où on a le plus de chances de faire respecter les exigences. Il faut que les conditions soient remplies au moment de l'inscription. C'était peut-être moins indispensable au début, parce que nous avions les musts. Quand on inscrit le Taj Mahal et l'Alhambra, bon, on sait très bien que ça va être bien géré et que c'est protégé. Mais quand on arrive à un deuxième choix, il faut être plus exigeant à l'inscription. Ma crainte est que pour le moment, la tension se relâche pour 36 raisons qu'on peut peut-être examiner après. Mais sur, ça, c'est un aspect. Mais surtout, le suivi. Le suivi. Ça varie de nouveau suivant les pays, suivant les régions. Hélas, les régions pauvres ont plus de peine à maintenir la qualité que les régions riches. Si on va en France, en Allemagne ou en Angleterre, en général, le suivi me semble assez bien assuré. J'ai été très effrayé il y a déjà quelques années lorsqu'on a fait le premier rapport périodique sur le monde arabe, où c'était un constat tout à fait désolant, à la fois du point de vue de la prise de conscience de l'importance du site. Même les gestionnaires ignoraient les exigences du patrimoine mondial. Le public ne le savait pas. Et la gestion, simplement, était insuffisante dans trois quarts des cas. Ça, c'est terrible. Je n'ai pas bien suivi les autres reporting, les autres rapports périodiques. Donc, je ne peux pas bien juger. Mon sentiment est que les pays qui ont les moyens, en général, font un effort pour maintenir le site, mais ceux qui, des pays pauvres, ne parviennent pas à suivre. Mais même dans des pays qui ont l'argent, les valeurs qui ont justifié l'inscription sont menacées, notamment pour une série de une trop grande fréquentation, enfin, toute une série de raisons sur lesquelles on peut peut-être venir après. Mais donc, pour revenir à la question de base, je crains que la crédibilité à la fois de l'inscription et du maintien sur la liste soit compromis. Et ça, c'est une... si on doit se poser des questions sur que faut-il faire à l'avenir, à mon avis, c'est de nouveau ça qu'il faut mettre en priorité. Sinon, l'ensemble du système va perdre son intérêt. Une chose qui me gêne très fort, c'est que quand on parle de coopération internationale, les conditions sont inégales. Il y a des pays plus avancés, il y a des pays pauvres. Il y a des pays qui ont des ressources humaines, d'autres qui en ont moins. C'est déjà une des raisons, je crois, pour lesquelles il y a un déséquilibre de la liste. Ce n'est pas uniquement une conception du patrimoine, c'est aussi une question de moyens. Je vois ça parce que quand on invente de nouveaux concepts comme le paysage culturel ou patrimoine immatériel, c'est les pays riches qui viennent les premiers encore. Même si les définitions nouvelles du patrimoine que l'on élabore sont destinées souvent à permettre que d'autres cultures. Ça revient quand même que ceux qui ont les moyens sont les premiers à pouvoir en bénéficier. Ça, c'est pour l'inscription. Et pour le suivi, pour le maintien de l'état de conservation, de nouveau, des pays pauvres ne parviennent pas à suivre. C'est plus difficile. Et je trouve que c'est le tout premier point que j'ai évoqué au départ, la Convention du patrimoine mondial est un acte de coopération internationale. Et ça devrait être vraiment réaffirmé. Au cœur du système, il faut que les pays qui ont les moyens aident les autres à suivre. Sinon, le déséquilibre n'est pas uniquement au niveau des concepts, mais au niveau simplement de la réalité matérielle. Et ça, c'est pour moi un très grave danger dans le long terme.